Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti !
Bienvenue dans cet épisode court consacré à un objet culturel. Cette semaine, on parle de littérature avec l'essai autobiographique « Dans la maison rêvée » de Carmen Maria Machado aux éditions Christian Bourgois sur le piège de la relation abusive chez les personnes non cis hétéros. C'est une sorte de livre dont vous êtes le héros à propos de violences conjugales entre femmes lesbiennes.
Ainsi, la maison rêvée était-elle une maison hantée ? Tu étais l'occupante intempestive, habitant par inadvertance un endroit où de mauvaises choses s'étaient produites. Puis il t'est apparu un jour, alors que tu te tenais dans le salon, que c'était toi, le fantôme de cette maison. Celui qui erre de pièce en pièce, sans but, enjambant les cartons de déménagement qui attendent d'être déballés, jamais sûr de ce que tu es censé faire. Après tout, tu n'as pas besoin de mourir pour imprimer la marque d'une souffrance psychique. Si quelqu'un vivait à présent dans la maison rêvée, il distinguerait sans peine ton écho.
Alors raconte-nous, de quoi s'agit-il exactement ?
La narratrice est une étudiante américaine en écriture dans l'état de l'Iowa. Elle entame une relation avec une jeune femme étudiante, elle, dans l'Indiana, et déjà en relation avec une autre femme. Et au cours des allers-retours chez l'une et l'autre, la relation se détériore jusqu'à devenir extrêmement violente. Il est sorti en septembre et nous en parlons que maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il nous fallait juste le temps de digérer l'une et l'autre ce livre vraiment très, très fort.
Oui, donc vous vous souvenez de ces livres dont vous êtes le héros. C'est effectivement sur ce mode qu'est composé l'un des chapitres de ce livre « Dans la maison rêvée ». D'ailleurs, on voit combien la narratrice est coincée dans cette relation puisque chacun des chapitres est énoncé d'une façon différente. Donc le chapitrage s'organise en fait comme autant de variations sur des formes et sur des genres littéraires. Donc à la manière d'un inventaire, un soap-opéra ou une comédie musicale. Et la multiplication et la répétition des faits rappelle que la victime vit constamment avec de multiples possibilités en tête. Elle se demande qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ça, est-ce que je devrais agir comme ça pour que l'autre personne ne pète pas un câble. C'est une forme de piège mental qui est parfaitement illustrée ici. Peut-être que tu peux nous dire qui est l'autrice Carmen Maria Machado.
Carmen Maria Machado, c'est une jeune autrice américaine d'origine mexicaine. Elle a, comme sa narratrice, puisque évidemment, c'est un sujet autobiographique. Elle a étudié l'écriture dans une fac prestigieuse et elle a publié son premier recueil de nouvelles qui est sorti il y a quelques années à l'Olivier, Son corps et autres célébrations. C'était à l'époque un mélange de fantastique, de folklore. C'était vraiment très chouette. Elle écrit en général sur la culture queer et sur le corps féminin. Et ce deuxième livre, ce sont un peu des mémoires expérimentales, comme le dit l'autrice elle-même. On l'écoute parler d'ailleurs du chapitre dont vous êtes le héros.
And it felt like a really sort of appropriate way of like creating an effect for the reader of like being stuck, being trapped. Because you can get trapped in the chapter, like if you follow the directions, you can get stuck. Or if you break the rules, if you like go to a page you don't belong to, the book will yell at you. So the book, I want a chapter where the book felt sort of as hostile and unfriendly to the reader as being in that relationship felt. And so that, and I feel like it actually ended up being a really sort of beautiful structure to kind of capture that feeling.
Alors, pour traduire ce qu'elle vient de dire, c'est une manière de rendre le livre hostile au lecteur, à la lectrice, comme la situation que vit la narratrice qui se sent piégée. Par ailleurs, gros big up pour la traduction du texte à Hélène Cohen, car c'est pas forcément évident donc de traduire un texte comme celui-là, clairement. D'ailleurs, cette traductrice, on lui doit aussi la super traduction de Nelly Bly aux éditions du Sous-Sol.
Oui, alors on peut aussi revenir sur le titre. Qu'est-ce que c'est que cette maison rêvée ? C'est donc la maison de son ex, c'est aussi le refuge et le fantasme constitutif de la romance lesbienne. D'ailleurs, la blague lesbophobe, c'est souvent de dire que les Gwyn, qui sont forcément fusionnelles, emménagent ensemble au deuxième date. Et donc, on voit bien que dans ce couple qui s'est construit, chacune à l'encontre d'un modèle dominant, le fantasme de la normalité ou de la mise en couple va devenir névrotique. La maison rêvée, elle est décrite comme une maison hantée dans laquelle la narratrice se retrouve piégée. Et par ailleurs, dans ce livre Maison, on trouve aussi de nombreuses références littéraires au motif du conte ou à la narratologie. Et donc, on suit le processus d'écriture et la réappropriation de l'histoire de l'autrice. C'est d'ailleurs intéressant de voir les allers-retours à la fois physiques entre les deux villes qu'occupe cette autrice, mais aussi entre l'écriture et le souvenir. Donc c'est rétrospectif, avec en plus la couche d'exercice de style des chapitres. On voit bien qu'il s'agit là d'une béquille pour continuer à s'en sortir et que le style va permettre de glisser un peu d'humour dans les interstices, un peu comme le goût de l'amande de l'arsenic. Alors, en tout cas, le sujet de ce livre, c'est celui des violences conjugales lesbiennes, qui est un sujet absolument tabou.
Alors, pour être honnête, c'est pas du tout le premier livre sur les violences conjugales et sur la violence entre les partenaires intimes, ou voire le féminicide. Mais par contre, c'est vraiment l'un des premiers sur les couples lesbiens. Et d'ailleurs, dans ce livre, on le voit, on a la parfaite illustration du continuum des violences sexistes et sexuelles. Donc ça commence par un isolement. On voit aussi la sidération de la victime, le fait qu'elle se dévalorise et qu'elle est dévalorisée en même temps. On voit les violences psy, les violences verbales à son encontre, aussi les violences physiques, le fait qu'elle se trouve complètement mise en danger par des conduites addictives de sa partenaire, qu'elle est sujette à des menaces, des jets de projectiles. Il y a aussi un gros chapitre sur le gaslighting. Donc le gaslighting, pour le décrire, c'est le fait de faire passer l'autre pour une folle. Ça aussi, c'est un peu typique des violences conjugales. Aussi, dans le contexte du livre, il y a beaucoup de passages sur l'emprise de l'alcool et sur l'excuse, en gros, de la généalogie. Mon père était violent, voilà pourquoi j'agis comme ça, qui souvent empêche les victimes de s'en sortir. On écoute un extrait assez glaçant.
Elle se penche et te hurle dans l'oreille. Un jet acide qui jaillit de sa bouche et se déverse en toi. Tu essayes de te libérer, mais elle se presse contre ton corps, beuglant comme un ours blessé, comme une divinité ancestrale. Une digue s'est brisée. Tu t'extirpes du canapé en roulant, te lèves et fonces te réfugier à l'autre bout du salon. Elle disparaît dans la chambre et en ressort avec ta valise. Elle la lance à travers la pièce en poussant un cri phénoménal et la valise s'écrase contre un mur.
Oui, et là où le livre est très fort, c'est que c'est effectivement un mémoire à la première personne et que l'autrice, narratrice, nous emmène dans sa réflexion intime sur la peur de desservir la cause ou de mettre un coup de canif au devoir d'exemplarité que se donnent bien souvent les couples non cis-hétéros, puisqu'en fait, condamner une agresseuse, ça pourrait être vu comme débiner une femme, donc quelque chose qui n'est pas féministe. Et en plus, il y a l'angoisse de donner de quoi se mettre sous la dent aux personnes LGBT-phobes.
D'ailleurs, en France aussi, c'est ce genre de retenue qu'on a trouvé quand il y a eu une tentative de parler des violences dans les couples non cis-hétéros. C'est le groupe Action Gay et Lesbien du Loiret qui a été le premier à décider de lever le voile sur cela. C'était en 2014, donc un an après les grosses discussions liées au mariage pour tous qui avaient fait une énorme montée de la lesbophobie, de la gayphobie dans la société française. Et le groupe avait décidé justement de travailler sur le traumatisme en général, extra-communautaire et intra-communautaire. Voilà ce qu'avait expliqué à Libé Charles Desportes-Guillou à l'époque. On a tâté le terrain et on a eu des réactions un peu bizarres. Pour les militants, les violences conjugales se résumaient au fait que des mecs frappaient leur nana. Voilà, l'idée c'était qu'en faisant leur recherche, on leur disait qu'ils allaient justement faire du tort à la cause et non pas la servir en fait.
Oui, alors quelques chiffres et références pour contextualiser un peu ces questions-là. Il faut savoir que les personnes LGBT+ sont bien une population à risque pour les violences, y compris dans l'intimité. Donc aux États-Unis, là où se passe ce livre, 43,8% des femmes lesbiennes et 61,1% des femmes bisexuelles ont déjà subi un viol, de la violence physique ou du stalking de la part d'un ou d'une partenaire intime à un moment de leur vie, contre 35% des femmes hétéros. Et c'est encore pire pour les victimes LGBT+, d'origine africaine, américaine, par rapport aux femmes blanches.
Et d'ailleurs, le livre se contente pas d'être un témoignage à la première personne, il regorge de références absolument passionnante sur la question de la lesbianité. Et aussi, il explique pourquoi les violences domestiques dans les couples lesbiens ne sont pas comprises, pas prises au sérieux et surtout pas saisies par la justice. Et ça nourrit un tabou pour les victimes et vraiment un blanc-seing pour les agresseurs et les agresseuses. Parce que dans l'idée, une femme est toujours victime et ne peut pas être agresseuse. Il y a donc une grosse omerta en général à penser la violence féminine et en particulier dans un couple de femmes. D'ailleurs, la postface et les références sont hyper riches. Elle cite plusieurs cas, par exemple, où les violences conjugales dans les couples lesbiens se sont retrouvées au tribunal, aux USA. Donc la première fois, c'était en 1892 quand même. Nous étions déjà là, et oui. Où une femme a assassiné son épouse. Elle s'était échangé des anneaux, donc on peut dire épouse. Et ce, pour qu'elle l'aime pour toujours.
Oula.
Elle avait été internée presque plus pour son aveu de lesbianité pendant le procès que pour le meurtre, le féminicide en l'occurrence. En 1989, une femme avait tué sa compagne maltraitante en légitime défense. Et malgré le fait qu'elle ait avancé énormément de preuves hyper accablantes, elle a été reconnue coupable d'homicide involontaire. Et d'ailleurs, l'avocate de la défense avait entendu par un assistant juridique le fait que si elle avait été hétéro, elle aurait été acquittée, bien sûr. On peut aussi parler du cas de Debra Red, qui a été reconnue coupable de meurtre sur sa compagne violente. Et dans ce cas-là, la justice avait été complètement désorientée parce que le couple ne correspondait pas du tout au stéréotype d'un meurtre en légitime défense dans le cas de violence conjugale. En gros, dans leur idée, à cette époque-là, donc il y a très peu de temps, les lesbiennes butch et les personnes racisées sont des coupables toutes désignées. Donc là, c'était compliqué pour eux de reconnaître que Debra Red était une victime puisqu'elle était racisée.
Oui, et donc souvent, dans ces cas-là, la victime va devoir plaider en disant qu'elle est la femme du couple, donc la personne féminine, pour que des juges qui ont en tête le référentiel très binaire du modèle hétérosexuel puissent comprendre les rapports de domination au sein de couples non hétéros. Donc on peut aussi se demander quelle est la différence entre les violences lesbiennes et la violence masculine. On voit bien qu'il n'y en a pas vraiment, en vérité, en tout cas dans ce livre, puisque la violence est peut-être plus sournoise, car les filles ne sont pas en général élevées à frapper et à tabasser. On voit aussi que les agresseuses bénéficient donc de ce tabou et de l'absence de reconnaissance de la violence conjugale en couple non-hétéro et surtout en couple lesbien, puisque tu l'as dit, on parle très peu des viols de femmes sur les femmes, des violences domestiques de femmes sur les femmes, notamment parce qu'elles sont plus rares et aussi parce qu'elles sont moins détectées à cause d'un système qui s'acharne à les masquer.
On peut dire aussi qu'il y a d'autres formes de violence entre lesbiennes dont on ne parle pas dans le livre et qui sont pourtant très importantes dans notre communauté et surtout aujourd'hui. C'est lié au retardement de la reconnaissance des familles homoparentales et de la PMA pour toutes. Par exemple, il y a beaucoup de cas où des mères sociales sont dépossédées de leurs droits parentaux par leur ex. Et ça aussi, c'est de la violence conjugale, en fait, même dans un degré très extrême. On peut aussi dire que les violences entre femmes ont été complètement ignorées du Grenelle des violences conjugales. Les violences entre femmes, encore une fois, sont très peu l'objet d'études en France. La Fédération LGBT a pour la première fois fait une campagne de prévention contre les violences conjugales dans les couples lesbiens et c'était en avril 2021. Donc il rappelait à cette occasion des chiffres assez clairs. En 2018, sur 121 femmes tuées, 3 l'ont été par leur compagne, ce qui, m'a surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce chiffre. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette lecture ?
Oui, alors d'abord, je trouve que c'est un témoignage très précieux en raison de sa rareté. Évidemment, ça ne veut pas dire que la violence masculine n'est pas majoritaire dans la société, mais je vous trouve très intéressant de voir cette manière dont les femmes peuvent intégrer le patriarcat et le reproduire dans la sphère intime. Je pense que ça repose ici, encore une fois, la question de l'hétérosexualité comme régime politique oppressif, et y compris pour les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je me souviens, quand je travaillais chez Cosette, il y avait eu un papier à l'été 2013 qui avait pas mal gêné aux entournures. C'était l'histoire d'une prof qui était poursuivie par les parents d'une ado de 14 ans dont elle avait abusé. Et le papier avait été édité façon un peu amour interdit. Enfin, je dis même pas façon, c'était exactement écrit comme ça dans le chapeau. C'était écrit, elle avait 19 ans de plus que son amante. C'est quand même un peu chaud. Ouais. J'avais à l'époque ressenti un abysse au fond de moi. C'était une agression sexuelle, je voyais pas comment ça pouvait être maquillé comme une histoire d'amour. D'ailleurs, on avait reçu des tomates sur la façade, on avait été accusé d'être pro-pédo et lesbophobe. Dans mon petit silence à moi, parce que je faisais profil bas à l'époque, ce dernier mot avait mis une réalité sur ce que je ressentais à l'époque. À la lecture de La Maison rêvée, du coup, j'ai ressenti exactement la même chose. Il faut vraiment faire sauter cette romantisation des lesbiennes en général et de cette innocence qu'on attache à leur rapport sexuel, parce que c'est complètement lesbophobe. Il faut aussi que les victimes aient un mot sur lequel attacher leur souffrance. Et je suis vraiment contente qu'enfin ce soit le cas avec La Maison rêvée. J'espère vraiment qu'il va être mis dans toutes les mains. Voilà.
Oui, et surtout, donc c'est pas pour faire des généralités encore une fois, et je pense effectivement que le fait de donner de la nuance, ça humanise aussi les lesbiennes, et donc ça les désessentialise, ce qui est tout à fait utile. En tout cas, c'est vrai que ce livre, c'est un tour de force très réussi, c'est une vraie réussite littéraire, alors que le mélange des genres aurait très bien pu ne pas fonctionner. Je pense qu'il s'inscrit dans la lignée des essais autobiographiques qui sont à la mode en ce moment, qui sont par ailleurs très réussis, ceux de Maggie Nelson, ceux de Deborah Levy. En tant qu'autrice, je trouve qu'elle mêle très bien sa propre expérience et celle de la littérature ou de la culture qui nous entoure. C'est-à-dire que par le truchement de l'écriture, elle va se rendre compte que sa situation corrobore un certain nombre de clichés, ceux du roman gothique, ceux de la culture populaire par exemple. Et du point de vue thérapeutique d'une survivante, il y a là une forme de mise à distance par le biais littéraire qui est assez bien vue et très finement menée, je trouve.
Et tu l'as dit, c'est surtout très très bien écrit.
Ouais. Alors, on vous encourage évidemment à offrir Dans la maison rêvée à Noël. Et n'oubliez pas non plus que le livre Quad Meuf est sorti et disponible en librairie et qu'il s'appelle 100 œuvres cultes à connaître quand on est féministe et qu'il est édité par Marabout. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et l'on fera enfin le bilan de l'année 2021 avec toute l'équipe. Vous pouvez retrouver toutes les références entendues dans l'épisode dans le descriptif. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aide à être référencés. Merci, salut Anne-Laure.
Salut.
Quad Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Rédaction en chef Clémentine Gallo.
Journaliste chroniqueuse Anne-Laure Pinault.
Mixage et montage Laurie Galligani, prise de son Adrien Beccaria à l'arrière-boutique, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, réalisation et coordination Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin.